Quant aux autres divinités, exposer et connaître leur génération est une tâche au-dessus de nos forces. Il faut s'en rapporter à ceux qui en ont parlé avant nous. Ils prétendaient descendre des dieux. Aussi devaient-ils connaître leurs ancêtres. Il est donc impossible de refuser créance à des fils de dieux, quoique leurs affirmations ne se fondent pas sur des raisons vraisemblables ni certaines. Mais comme c'est l'histoire de leur famille qu'ils prétendent rapporter, il faut se conformer à l'usage et les croire. Admettons donc sur leurs paroles, et disons que la génération de ces dieux fut celle-ci. De la terre et du ciel naquirent l'océan et Tétis. De ceux-ci, Porquis, Chronos, Rhéa et tous ceux qui vont avec eux. De Chronos et de Rhéa, Zeus, Héra et tous leurs frères et sœurs dont nous savons les noms, et de ceux-ci encore d'autres rejetons. Or, lorsque tous ces dieux, ceux qui circulent sous nos yeux, et que ceux qui ne se montrent que quand ils le veulent bien, eurent reçu l'existence, l'auteur de cet univers leur tint ce discours. Dieu de Dieu, les ouvrages dont je suis le Créateur et le Père, parce qu'ils ont été engendrés par moi, sont indissolubles sans mon consentement. Il est vrai que ce qui a été lié peut toujours être délié, mais il n'y a qu'un méchant qui puisse consentir à dissoudre ce qui a été bien ajusté et qui est en bon état. Par conséquent, puisque vous avez été engendré, vous n'êtes pas immortel et vous n'êtes pas absolument indissoluble. Néanmoins, vous ne serez pas dissous et vous n'aurez point part à la mort parce que ma volonté est pour vous un lien plus fort et plus puissant que ceux dont vous avez été liés au moment de votre naissance. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire et à vous montrer. Il reste encore à naître trois races mortelles. Si elles ne naissent pas, le ciel sera inachevé, car il ne contiendra pas en lui toutes les espèces d'animaux, et il faut qu'il les contienne pour être suffisamment parfait. Si je leur donnais moi-même la naissance et la vie, elles seraient égales aux dieux. Afin donc qu'elles soient mortelles et que cet univers soit réellement complet, appliquez-vous, selon votre nature, à former ces animaux en imitant l'action de ma puissance lors de votre naissance. Et comme il convient qu'il y ait en eux quelque chose qui porte le même nom que les immortels, quelque chose qu'on appelle divin et qui commande à ceux d'entre eux qui sont disposés à suivre toujours la justice et vous-même, je vous en donnerai moi-même la semence et le principe. Pour le reste, c'est à vous de fabriquer, en tissant ensemble le mortel et l'immortel, des animaux auxquels vous donnerez la naissance, que vous ferez croître en leur donnant de la nourriture et que vous recevrez de nouveau quand ils mourront. Il dit et, reprenant le cratère où il avait d'abord mélangé et fondu l'âme de l'univers, il y versa ce que restait des mêmes éléments et les mêla à peu près de la même manière, mais il n'était plus aussi pur. Il l'était même deux ou trois fois moins. Quand il eut composé le tout, il le partagea en autant d'âmes qu'il y a d'astres. Il assigna chacune d'elles à un astre, les y plaça comme dans un char, leur montra la nature de l'univers et leur fit connaître les lois de la destinée. Tous devaient être traités de même à leur première incarnation, afin que nul ne fût désavantagé par lui. Semées chacune dans l'organe du temps fait pour elles, elle devait devenir l'animal le plus religieux de tous. Mais, la nature humaine étant double, le sexe supérieur serait celui qui serait dans la suite appelé mâle. Lorsque les âmes seraient, en vertu de la nécessité, implantées dans des corps, et que ces corps s'accroîtraient de certaines parties et en perdraient d'autres, il en résulterait d'abord qu'elles auraient nécessairement toute la même sensibilité naturelle à la suite d'impressions violentes. Puis l'amour avec son mélange de plaisir et de peine, et en outre la crainte, la colère et toutes les passions connexes à celles-là ou celles qui leur sont naturellement contraires. Que ceux qui les domineraient vivraient dans la justice, et ceux qui s'en laisseraient dominer dans l'injustice. Que celui qui aurait fait bon usage du temps qui lui est accordé retournerait habiter l'astre auquel il est affecté, et vivrait heureux en sa compagnie, mais que celui qui aurait manqué ce but serait transformé en femme à sa seconde naissance. Et si, en cet état, il ne cessait pas d'être méchant, il serait, suivant la nature de sa méchanceté, transformé, à chaque naissance nouvelle, en l'animal auquel il ressemblerait par ses mœurs et ses métamorphoses, et ses tribulations ne finiraient point avant d'avoir soumis à la révolution du même et du semblable en lui cette grosse masse de feu, d'eau, d'air et de terre qui s'est ajoutée à son être par la suite. Qu'il ne retrouverait l'excellence de son premier état qu'après avoir maîtrisé par la raison cette masse turbulente et déraisonnable.